et qu'il nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on rapporta le coffre de l'alliance du Seigneur des armées, qui est assis sur les kéroubim. Ophni et Phinéas, les deux fils d'Élie, étaient là avec le coffre de l'alliance de Dieu. Lorsque le coffre de l'alliance du Seigneur arriva au camp, tout Israël lança une grande acclamation. La terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent l'acclamation. Ils dirent : « Qu'est-ce donc que cette grande acclamation dans le camp des Hébreux ?» Ils surent ainsi que le coffre du Seigneur était arrivé au camp. Les Philistins eurent peur. Ils disaient : « Dieu est arrivé au camp. Quel malheur pour nous ! Rien ne sera plus comme d'habitude. Quel malheur pour nous ! Qui nous délivrera de la main de ces dieux formidables ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Soyez forts, soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez soumis aux Hébreux comme ils vous ont été soumis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent donc bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit à sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba 30 000 fantassins en Israël. Le coffre de Dieu fut pris. Ophni et Phinéas, les deux fils d'Élie, moururent. Un homme de Benjamin accourut du front et arriva à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était en train de guetter, assis sur son siège près de la route, car son cœur tremblait pour le coffre de Dieu. À son arrivée, l'homme annonça la nouvelle, et toute la ville se mit à pousser des cris. Quand il entendit les cris, Élie demanda : « Qu'est-ce que ce tumulte ?» L'homme s'empressa de venir annoncer la nouvelle à Élie. Or, Élie avait 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie : « J'arrive du front. Moi, je me suis enfui du front aujourd'hui. » Élie lui demanda : « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle répondit : « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a subi une grande défaite. Même Ophni et Phinéas, tes deux fils, sont morts, et le coffre de Dieu a été pris. » À peine avait-il évoqué le coffre de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège, près de la porte de la ville. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, la femme de Phinéas, était enceinte. Elle était sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle apprit que le coffre de Dieu avait été pris et que son beau-père et son mari étaient morts, elle se courba et accoucha, car les douleurs l'avaient saisie. Comme elle allait mourir, celles qui se tenaient auprès d'elle lui dirent : « N'aie pas peur, tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas, elle ne voulut pas y prêter attention. Elle appela le garçon El-Kabod, où est la gloire, en disant : « La gloire est exilée d'Israël. » C'était à cause de la prise du coffre de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit : « La gloire est exilée d'Israël, car le coffre de Dieu a été pris. »
Bonsoir. On a eu une série d'événements sportifs. Cela. On a eu une série d'événements sportifs avec le tournoi de Roland-Garros qui se termine en ce moment. Et puis, on a commencé aussi l'Euro. Et c'est intéressant de voir le rôle de la superstition dans chacune de ces compétitions sportives. Quelques extraits pour le tournoi de Roland-Garros, par exemple. Quand Roger Federer a annoncé qu'il allait porter du noir, il y a un article sur France Télévisions qui invitait à donner des conseils à Roger Federer. Et il se termine de la façon suivante. Une couleur historiquement très connotée sur la terre battue. Il n'est pas trop tard pour aider le joueur suisse à mettre les dieux du tennis de son côté. Une invitation. Alors, vous vous inquiétez pas, vous n'êtes pas célèbre. On vous fait pas de conseils dans les médias sur ce que vous devriez mettre. Mais lui, il a droit à ses petits conseils. Et pour l'euro, là de nouveau, c'est la tenue qui retient l'attention de tout le monde. Alors que la France va jouer contre l'Angleterre lundi soir, à la fin d'un article dans le Nouvel Obs, la toute première fois où l'équipe de France a porté un ensemble tout bleu, c'est ce qu'ils vont porter ce soir-là, c'était en demi-finale du Mondial 1998 contre la Croatie. Superstition oblige, ça ne peut pas être un hasard. La victoire est en eux. Là encore, est-ce que vous portez la bonne couleur ce soir? Et les Jeux Olympiques de Londres vont probablement nous faire part ou nous faire voir des gens qui ont tel ou tel autre tic ou superstition pour remporter un prix, une médaille. Comment faire pour avoir la puissance de Dieu à notre service? Comment faire pour invoquer cette puissance de Dieu dans notre service? Quelqu'un pourrait se dire, mais c'est une occasion rêvée pour Dieu d'entendre quelqu'un qui souhaite qu'il dévoile sa puissance. Est-ce que Dieu ne pourrait pas s'estimer heureux qu'on invoque sa puissance, qu'il montre combien il est fort pour tel ou tel sportif, qu'il est glorieux, qu'il existe vraiment? Après tout, c'est une occasion de le démontrer, non? Avec ce texte, on a l'occasion de réfléchir à la manière dont on s'approche de Dieu, notre manière de venir à lui, notre manière de voir sa puissance, notre manière de le prier. Et on va se poser la question qui revient à la fin du texte. Où est la gloire? Où est la gloire? On va le faire en deux parties. Deux armées se sont trompées dans les versets 1 à 11. Deux individus l'ont bien compris. On va commencer avec deux armées se sont trompées. Et une des phrases qui résume, je vous le suggère, ce texte, c'est la phrase suivante. Dieu est prêt à passer par une défaite apparente, mais il est fidèle à ses promesses et victorieux en fin de compte. Dieu est prêt à passer par une défaite apparente, mais il est fidèle à ses promesses et victorieux en fin de compte. Avec ce livre de Samuel, on est entré dans une période assez sombre de l'histoire du peuple d'Israël. On voit, et notre passage en témoigne avec le nombre de morts, que ce sont des temps très lourds à vivre. Et pourtant, on a vu dans les chapitres 1, 2 et 3 les premiers signes de changement, d'évolution positive. Et le changement vient de l'endroit inattendu, Léo y a fait référence, une femme de la campagne qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais qui, après avoir prié, reçoit cette réponse à sa prière. Et rapidement, on est placé devant un contraste dans ce livre. Contraste entre Anne, cette femme de la campagne, et son enfant Samuel, et Élie, le prêtre, bien en place, avec ses deux fils qui devraient lui succéder, mais qui commettent horreur sur horreur et qui s'enfoncent dans les crimes qu'ils commettent. Un dimanche dernier, on a vu comment Dieu annonçait la fin de cette dynastie-là pour les fils d'Élie. Et c'est intéressant que c'est par Samuel, ce petit enfant, que cette annonce est faite. Et on voit au tout début de ce chapitre que la parole de Samuel a de plus en plus d'impact. Et on voit maintenant un récit qui peut sembler hors du contexte. On parlait des fils d'Élie, on parlait de Samuel. Et on va voir qu'il y a bel et bien un lien avec ce qui précède. Deux armées se sont trompées, c'est le premier point. Le récit nous place directement dans le contexte d'un conflit. On ne sait pas qui l'a initié, qui a lancé les hostilités, mais on sait et on va voir tout au long de ce livre Samuel qu'il y a bel et bien une hostilité entre ces deux nations. Les deux sont récemment arrivés dans la région, relativement récemment, et on va voir ce rêve d'expansion chez les deux. Maintenant, cette section, elle débute avec un premier affrontement entre les deux. Et la conclusion est la suivante. Israël fut battu par les Philistins qui abattirent environ 4000 hommes dans ses lignes sur le champ de bataille. On vient d'apprendre le décès de 4 soldats en Afghanistan et on sent déjà le prix lourd pour les familles endeuillées. Ici, ce sont 4000 hommes qui meurent en une journée. Et si ça cause si ça provoque des remises en question pour la France dans son engagement, d'autant plus fortement ici, la question qui se pose et qui peut surprendre, c'est la suivante. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins? Dans ses promesses au Sinaï, Dieu n'avait-il pas promis qu'il allait nous protéger, nous garder des nations environnantes? Et dans un sens, en posant cette question, il ne se trompe pas. Dans le cadre de l'Alliance au Sinaï, il y avait bien ces promesses de protection. Mais c'est dans la réponse qu'ils apportent qu'ils se trompent. Quelle est la réponse? Allons prendre à Silo le coffre de l'Alliance du Seigneur, qu'il vienne parmi nous et qu'il nous sauve de la main de nos ennemis. Dans la rapidité de la réponse, c'est là que se trouve l'erreur, je vous suggère. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher ce coffre de l'Alliance? Alors, ils ont peut-être le souvenir de ces moments dans l'histoire du peuple, des siècles plus tôt, où ce coffre avait accompagné le peuple pour l'entrée dans le pays promis. Ils ont peut-être l'idée que s'ils ont ce coffre avec eux, Dieu va se souvenir de son alliance. Après tout, c'est le coffre de l'alliance. Dieu va se souvenir de ses promesses. Il va être avec nous sur le champ de bataille et il va devoir agir en notre faveur. La réaction, elle ne se fait pas attendre dans le camp. Tout Israël lança une grande acclamation, verset 5. Pour autrement dit, pour eux, c'est clair. Maintenant que le coffre est dans notre camp, ça va chauffer pour les Philistins. C'est ça que tout le monde se dit. Dès que le coffre est arrivé, ça va chauffer. Et du côté des Philistins, là aussi, on se trompe. On entend les cris. On entend les cris et on se demande ce qui se passe. Et finalement, on réalise que le coffre de l'Alliance a été apporté. Et leur réaction, c'est la peur. Dieu est arrivé au camp. Quel malheur pour nous. Rien ne sera plus comme avant. Malheur. Quel malheur pour nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux formidables? Il faut connaître que c'est surprenant d'entendre les Philistins dire ça. Après tout, ils ont été victorieux d'un premier affrontement. Pourquoi craindre? Dans un sens, ils ont raison de craindre Dieu. Et ils font référence à l'Égypte et à ce qui s'est passé quand Dieu est intervenu en faveur des Hébreux à ce moment-là. Mais ils se trompent quand ils pensent qu'il suffit pour le peuple d'Israël d'amener le coffre. Ils se trompent quand par la suite, ils estiment pouvoir ajouter le coffre de l'Alliance dans leur temple du dieu Dagon. Ça se verra au chapitre 5. Comme si on ajoutait simplement Dieu dans sa collection des atouts de puissance à faire jouer. Les deux camps se trompent. Et le deuxième affrontement a lieu. Et là, c'est la débâcle. C'était 4000 hommes la première fois. Là, c'est 30 000 fantassins qui meurent en un jour du côté d'Israël. Israël perd à nouveau. C'est à peu près les mêmes chiffres qu'on avait en un jour pour la bataille de la Somme. Le premier jour de ce conflit. Et l'autre constat qui est fait, c'est que le coffre de Dieu fut pris. Ophni et Phinéas, les deux fils d'Élie, moururent, verset 11. En quoi est-ce que ces deux armées se sont trompées? Ça peut être utile de voir qu'est-ce que ce coffre de l'Alliance représentait. Voilà une image, c'est qu'une représentation, on ne sait pas exactement comment il était. On a les dimensions, on a les matériaux qui étaient utilisés, qu'on trouve dans le livre de l'Exode, mais l'apparence, elle est quand même aléatoire. On voit des chérubins sur le haut, et ce coffre contenait les tables de la loi. On pourrait résumer un peu le symbole de ce coffre de l'Alliance par trois R. Symbole du règne de Dieu, c'est un peu comme un trône, on le voit d'ailleurs au verset 4, c'est là où Dieu est établi. C'est aussi un symbole de révélation de Dieu, les chérubins sont là pour témoigner de sa présence glorieuse. La révélation de Dieu, ce coffre contenait les tables de la loi, révélation de Dieu à Moïse, en même temps c'est de là que Dieu communiquait avec Moïse. C'est aussi un symbole de réconciliation. On répandait le sang des sacrifices d'animaux sur le couvercle, symbole de quelque chose qui couvre nos fautes, symbole de règne, de révélation, de réconciliation. Maintenant, est-ce qu'il suffit, en sachant cela, de faire appel à la puissance de Dieu en faisant venir ce coffre, en l'amenant au cœur du combat? Est-ce qu'on peut en quelque sorte tordre le bras de Dieu en disant « Tu as fait tes promesses, c'est le moment de les mettre en action ?» Si les Philistins se trompent dans le fait de voir ce genre d'action-là comme un porte-bonheur, comme un trèfle à quatre qu'on emmène au combat, les Israélites se trompent encore plus. Il est un des symboles de l'alliance avec Dieu, du peuple d'Israël avec son Dieu. Est-ce qu'Israël peut vraiment croire, faire appel aux promesses de Dieu, alors qu'ils sont ouvertement en train de laisser des prêtres pratiquer toutes sortes de corruptions? Est-ce qu'ils peuvent vraiment exiger que Dieu accomplisse ses promesses en ayant cela? Et c'est l'occasion pour nous de nous demander si nous nous trompons par rapport à Dieu. Tu mentionnais tout à l'heure que le sport, qui est l'occasion pour beaucoup de réfléchir à ce genre de puissance à l'œuvre. Et moi, je dois reconnaître que ce genre de réflexion, même si ce n'est pas la couleur du vêtement, hein, ça venait souvent à mon esprit. J'aimais jouer au foot, je jouais dans un club. Et je me souviens que avant d'aller à un match, les petites pensées qui traversaient mon esprit, c'est « Est-ce que tu as prié ?» Est-ce que tu n'as pas eu de dispute avec tes parents ou avec des amis avant le match? Et si c'était positif, ben forcément, sur le terrain, ça devrait bien se passer. Ou alors tirer un penalty, on est devant la pression, puis on se dit, mais est-ce que j'ai été correct avec les autres joueurs sur le terrain? Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Si c'est positif, ben, ça devrait bien se passer au niveau du penalty. Je regardais ces choses comme quelque chose qui devait en quelque sorte faire en sorte que Dieu doive en tenir compte et accède à ma demande. Est-ce que ce genre de pensée, elle est réservée au sport, à l'enfance? Probablement pas, hein. Probablement pas. Quand on pense à des situations dans lesquelles on se trouve, et où il y a cette attente de la puissance de Dieu, je me présente à un examen, j'attends le résultat d'un entretien, je voudrais entrer dans une relation avec quelqu'un, et d'une certaine manière, il y a cette attente que Dieu agisse, fasse preuve de générosité, intervienne. Où est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va amener? Est-ce qu'on va réfléchir à notre semaine, penser au temps de prière qu'on a eu? Est-ce qu'on va penser à la lecture que l'on fait? Est-ce que tout à l'heure, en prenant la scène, on va se dire, peut-être pour que la semaine se passe bien, ça ne fait pas de mal d'aller prendre la scène? Cette petite pensée qui nous amène à croire que si on fait les bonnes choses, Dieu devrait tenir compte de cela pour dévoiler sa puissance dans notre vie. Ou à la manière des Philistins, peut-être quelqu'un ici qui regarde à différents endroits et qui se dit, bon, ça ne peut pas faire de mal de tester aussi celui-là, ce Dieu-là. Et au fond, on se dit, si Dieu n'agit pas, c'est lui le perdant. C'est lui qui manque l'occasion de démontrer dans ma vie qu'il était puissant. C'est lui qui manque une bonne occasion de montrer qu'il existe vraiment. Dieu est prêt à passer par une défaite apparente. Dieu est prêt à passer par une défaite apparente, c'est ce que le texte révèle. Dieu, il est prêt à souffrir une défaite apparente plutôt que de nous encourager à poursuivre une relation qui est faussée avec lui. Dieu sera prêt à ce qu'on soit déçu de lui si ça peut nous éveiller à qui il est réellement. Il est prêt à passer par cette défaite apparente pour ne pas se faire manipuler. Et on passe maintenant à deux individus qui l'ont bien compris. Deux individus qui l'ont bien compris. C'est la première section, elle a un double récit de guerre et se termine avec le décès de deux individus. On a cette deuxième section où on retrouve la double nouvelle qui est donnée. Elle se termine avec le décès de deux individus. Et on sent la tragédie, le poids de la tragédie dans la nouvelle qui se propage. À l'époque, il n'y avait pas l'AFP, il n'y avait pas Internet, Facebook et autres. Les nouvelles étaient transmises par des courriers, des hommes qui allaient parcourir la distance du front jusqu'à la ville pour annoncer la nouvelle. Et c'est un homme de la tribu de Benjamin, il nous est dit, qui va annoncer la nouvelle à Silo, le centre religieux en Israël. Et en voyant l'arrivée d'un coureur, on avait l'habitude de regarder son apparence et essayer de deviner si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais ici, il n'y a pas de doute à avoir. Cet homme, il est déjà probablement marqué par le combat, mais en plus, il est dit que ses vêtements sont déchirés, sa tête est couverte de terre, deux signes d'une humiliation, d'une tragédie. Et la nouvelle qu'il va annoncer, il va l'annoncer à la ville et il va l'annoncer à Élie. Et en fait, on découvre qu'Élie est assis près de la porte, dans la tente d'une nouvelle, verset 13, près de la porte de la ville, au verset 18. Le courrier, semble-t-il, passe à côté de lui pour se rendre au cœur de la ville. Et parce qu'il est aveugle, Élie ne voit pas l'apparence de celui qui annonce la nouvelle. Ce n'est que lorsqu'il entend les cris qu'il va demander ce qui s'est passé. Et au verset 17, celui qui a apporté la nouvelle répondit, « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. » Même Ophni et Phinéas, tes deux fils, sont morts et le coffre de Dieu a été pris. Élie apprend coup sur coup la défaite de l'armée, le décès de ses deux fils et le fait que le coffre a été pris. Trois nouvelles qui, vu son âge, sont difficiles à recevoir. Il tombe à la renverse, il se rompt la nuque et il meurt. C'est la mort du premier individu. Cette nouvelle, elle l'a provoquée. Mais elle va aussi provoquer la mort d'un autre individu, d'un deuxième individu. C'est une femme cette fois-ci, la femme de Phinéas, la belle-fille d'Élie. Elle aussi apprend la nouvelle alors que tout le monde en parle. Et elle est sur le point d'accoucher, sur le point de donner naissance à un enfant. Et il y a comme un effet accumulé. Elle n'entend pas seulement la défaite de l'armée, le décès de son mari, mais il y a là le décès de son beau-père. Elle est saisie de douleur, elle va accoucher suite à la nouvelle. Celles qui sont là pour l'assister dans la naissance veulent l'encourager, lui disant d'avoir une espérance, elle a un fils après tout. Mais elle ne répond rien dans un premier temps. La naissance d'un enfant n'arrive pas à relever son esprit. On peut penser aujourd'hui à tous les efforts qu'on fait pour que des enfants ou une mère puisse donner naissance à un enfant dans de bonnes conditions. On pense à tout ce qui est fait pour préparer la naissance. On pense aussi à des couples qui doivent donner naissance à un enfant alors que l'un des parents a le cancer ou une maladie. Et c'est déjà une lourde épreuve. Ici, tout est plus lourd, tout est plus dur. Et elle va bien donner un nom à cet enfant, mais c'est pour dire combien la situation est pénible. Ichabod, où est la gloire? Et le commentaire met en évidence que pour elle, il est clair que la gloire est exilée d'Israël. Alors qu'est-ce que ces deux individus ont compris? Commençons avec Élie, qu'est-ce qu'il a compris? La chose qu'on peut relever à son sujet, c'est que même avant que la nouvelle soit donnée, sans voir le courrier, il était déjà dans la crainte. Au verset 13, son cœur tremblait pour le coffre de l'Alliance. Pourquoi est-ce qu'il avait peur? Le narrateur met en évidence que c'était en lien avec le coffre de l'Alliance. Il avait, semble-t-il, peur que les choses tournent mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ceux d'entre nous qui sont anxieux, vous vous êtes peut-être entendu dire que t'inquiète pas, la plupart de tes peurs, la plupart de nos peurs ne se réalisent jamais. C'est ce qu'on dit généralement. Mais ici, il avait raison. Il avait raison d'avoir peur. Sa crainte était fondée. Mais pourquoi est-ce qu'il avait peur? Si on n'avait pas lu les chapitres 2 et 3, on ne saurait pas trop, mais si on les a à l'esprit, on sait que Dieu a annoncé à plusieurs reprises que ses fils allaient mourir le même jour. Chapitre 2, verset 34. Parole confirmée par l'intermédiaire de Samuel au chapitre 3. Et quelque chose à ne pas manquer, et que Kelly n'a certainement pas manqué, lorsque la délégation est allée chercher le coffre de l'Alliance, qui a accompagné le coffre? Les prêtres. Ophni, Phinéas, plutôt que de rester dans une zone protégée, loin du front, avec ce coffre de l'Alliance, ils sont transportés, amenés au cœur de la bataille, vers le front. Oui, Élie avait raison d'avoir peur. Et ce n'est pas que la puissance de Dieu est absente. On la voit dans le fait que sa parole s'accomplit alors que tout le monde se demande ce qu'il fait. Elle est en train de s'accomplir lorsque Ophni et Phinéas sont amenés au front. Comment des prêtres aussi corrompus pouvaient-ils croire, pouvaient-ils penser négliger la présence de Dieu? Comment pouvaient-ils prétendre utiliser la puissance de Dieu alors que Dieu était lui-même déterminé à les juger? Et qu'en est-il de sa belle-fille? Cet endroit, c'est intéressant de faire un parallèle avec le début du livre, en prenant un peu de recul. Au début du livre, et on l'a vu, il y a ce cantique d'Anne qui célèbre l'élévation d'une femme humble et l'humiliation de personnes qui sont élevées. On a une femme de la campagne, on a un prêtre assis dans le temple. Une femme qui est désespérée, qui attend la naissance d'un enfant, elle l'aura et qui l'appelle comme une réponse à sa prière. Ici, on a aussi une femme qui donne naissance à un enfant et qui elle aussi va donner le nom qui est symbolique, significatif. Où est la gloire? Entre les deux, chapitres 2 et 3, où on voit le contraste entre ce jeune Samuel à qui Dieu parle et par qui Dieu parle, et les fils d'Élie qui n'écoutent pas Dieu leur parler. Oui, la femme de Phinéas a bien compris ce qui s'est passé. Il y a un sens dans lequel Dieu retire sa gloire alors que son peuple est conduit par des gens corrompus. Dans un sens, Dieu est présent partout, sa gloire demeure. Mais à plusieurs moments dans l'histoire de la nation, symboliquement, il montre son désaccord, sa gloire est retirée. On peut penser à Exode 33, on peut penser à la vision d'Ézéchiel qui voit la gloire s'éloigner du temple, Ézéchiel 10 et 11. Il y a un sens dans lequel Dieu ne peut pas être associé au mal. Et symboliquement, cette gloire est exilée. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce passage ici? Ça doit d'une part nous dire combien le péché est grave aux yeux de Dieu, ne doit pas être relativisé, toléré. Comment pourrait-on s'attendre à ce que Dieu manifeste sa puissance en nous alors qu'on vit dans l'incohérence? La leçon qui ressort, c'est que Dieu est prêt à passer par une défaite apparente, mais il est fidèle à ses promesses et victorieux en fin de compte. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? On a vu les uns et les autres se tromper. Est-ce que ça signifie par exemple qu'on doit se dire, eh bien à partir de maintenant, je vais filer droit. Je vais faire tout ce qu'il faut pour tenir mes engagements vis-à-vis de Dieu. Je vais tenir mes promesses. Je vais vivre une vie droite, rigoureusement droite. Pensez par exemple à Samuel. Il a bien commencé. Il va enseigner à ses enfants à bien vivre. Eux, ils vont filer droit. Je vais suivre leur exemple. Le narrateur, il est très honnête. Chapitre 8, il nous montrera comment Samuel est limité dans sa justice, sa capacité à vivre selon la droiture. Ses fils, ils accepteront des pots de vin. Ce n'est pas sur la base de notre capacité à vivre selon notre propre justice que tout dépend. Même si ces choses sont importantes, le fait de transmettre, le fait de vouloir vivre selon la justice, c'est important, mais ce n'est pas là que se trouve la solution. Il y a une attente dans ce livre. On attend quelqu'un qui va révéler la gloire de Dieu, la démontrer, la dévoiler par sa personne. Quelqu'un qui, par sa vie, va montrer une parfaite justice, une parfaite obéissance. Mais paradoxalement, il va la démontrer, cette gloire, au beau milieu d'une défaite apparente. Cette gloire, Jésus la révèle alors qu'il est livré aux Romains. C'est lui qui accepte de vivre la défaite apparente. C'est lui qui accepte d'être crucifié à une croix. C'est lui qui crie en agonie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» alors qu'il a toute sa vie durant témoigné d'une parfaite obéissance. S'il fait cela, c'est parce qu'il accomplit les promesses de Dieu envers nous, pour qu'elles soient accomplies et pour que nous soyons au bénéfice de sa puissance. Dieu ne néglige pas l'importance de la puissance dans notre vie. Il souhaite que nous soyons puissamment fortifiés. Le Nouveau Testament en rend témoignage. On pense par exemple à la lettre de Paul aux Éphésiens. Il veut véritablement que cette puissance soit à l'œuvre dans notre vie. Mais quel genre de puissance? Et comment est-ce qu'elle peut être là, cette puissance? C'est une puissance avant tout intérieure. Et elle ne sert pas à s'attaquer à un vis-à-vis, à un être humain. Ce n'est pas contre l'homme, la chair et le sang que nous avons à lutter. Une puissance intérieure et qui n'est pas à être invoquée parce que nous aurions fait des œuvres de justice. C'est sur la base de la justice de Jésus qu'elle est invoquée. Oui, il est légitime de faire appel à la puissance de Dieu. Il est légitime de faire appel à lui. Mais c'est avant tout pour que l'on soit gardé à l'intérieur de tout ce qui nous tire vers le mal. Et pas sur la base de notre justice, mais sur la base de sa justice. Je vous invite à prier.